Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbe pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est une conversation autour de l'éducation et la parentalité. Comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme et nous souhaitons ainsi vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous avez à cœur d'offrir la meilleure éducation aux enfants, ce podcast est fait pour vous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Aujourd'hui, nous échangeons avec Christelle Valette au sujet de la politique inclusive dans les écoles en France et plus précisément des dispositifs qui permettent la scolarisation d'élèves en situation de handicap. Christelle a créé une ULIS, unité localisée pour l'inclusion scolaire, dans son collège et nous partage avec passion son approche pour s'adapter à chacun de ses élèves en situation de handicap. Cet épisode était passionnant et on vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Nous sommes ravis d'échanger avec vous aujourd'hui puisque vous êtes quand même une spécialiste de l'éducation inclusive et nous allons beaucoup parler aujourd'hui des ULIS, donc les unités localisées pour l'inclusion scolaire. Et avant que l'on parle de tout ça, j'aimerais que vous nous rappeliez votre parcours et pourquoi vous vous êtes tournée vers l'éducation.
Alors merci beaucoup de me donner cette occasion aussi de parler des ULIS. Donc moi j'étais professeure de français, agrégée de lettres depuis une quinzaine d'années. J'ai travaillé dans les collèges et dans des lycées comme professeure de français et en fait je me suis spécialisée dans l'éducation inclusive en passant une certification de l'éducation nationale qui s'appelle le KPI. Enfin, à l'époque, c'était le 2CASH, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai passé aussi un Master 2 de Paris-Sorbonne pour être formatrice de l'éducation inclusive. Et aujourd'hui, je suis à la fois coordinatrice du LIS, mais aussi formatrice d'enseignants spécialisés au sein d'une organisation qui s'appelle l'IFM et RETSIGEREPS. Alors, ça s'appelle comme ça parce que c'est un organisme de formation qui est adossé à de la recherche sur la scolarisation des élèves en situation de handicap. Et j'écris aussi des ouvrages chez EBLA Éditions pour favoriser l'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc, en fait, mon but, c'était vraiment que tous les élèves puissent avoir une vie riche et épanouissante, pas seulement avec un bulletin et des bonnes notes, mais aussi qu'ils puissent tous avoir accès à de nouvelles expériences, parce que je pense que quand on a le goût d'apprendre, en fait, on reste fort dans sa vie pour pouvoir se réaliser. Et ça, c'était vraiment très important, notamment pour les élèves en situation de handicap. Donc, c'est un petit peu pour ça que, petit à petit, je me suis de plus en plus intéressée à la difficulté scolaire. Ça vient un petit peu de raisons personnelles, puisque moi, je viens d'une très grande famille. Il y a énormément de monde dans ma famille, puisque ma mère, c'était la 9e d'une fratrie de 11 ans.
Ah ouais.
Et mon père, il est enfant unique, mais en même temps, il est né de deux personnes qui sont devenues veuves pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont mariés, ils avaient déjà 3 ou 4 enfants ensemble. Donc, dans cette très grande famille, j'ai pu rencontrer plein de situations humaines différentes. Et notamment celle de ma tante, donc la jeune sœur de ma mère, qui est polyhandicapée. Donc, comme mes grands-parents avaient une famille nombreuse, pas beaucoup de moyens financiers, ma mère elle a dû quitter l'école après le certificat d'études pour s'occuper de sa sœur. Et elle est restée en contact avec son instituteur toute sa vie. Et moi, ça m'a énormément marquée. Quand ma tante est morte, j'étais adolescente. Mais en fait, c'est comme cette personne, elle a vraiment rayonné dans la famille. Et je crois qu'elle nous a tous donné une certaine sensibilité. Alors parfois, qui se transforme un peu en colère et en hargne à certains moments. Mais en tout cas, je crois que même si elle est morte, elle avait 38 ans, mais elle a vraiment marqué notre famille. Et ensuite, j'ai eu la chance, déjà on déménageait très souvent, donc j'ai vu plein de professeurs super et merveilleux pendant ma scolarité, mais comme j'avais de bonnes notes, parce que mes parents m'encourageaient beaucoup, pour eux l'école c'était important, je me suis retrouvée en Hippocagne à Henri IV, grâce à un programme spécial d'ouverture vers des établissements, je dirais lambda, hein. Donc moi c'était un établissement rural dans les Ardennes, c'était la région de ma famille, on était retournés là-bas à ce moment-là, et là j'ai une chance énorme de rencontrer des professeurs merveilleux, mais ça a été extrêmement difficile à vivre parce que j'avais pas le même vocabulaire que les autres élèves, donc je pouvais déjà pas parler avec mes camarades, mais avec mes professeurs non plus. Donc ça a vraiment, je me suis rendu compte là que l'éducation, c'était pas seulement le fait de travailler qui permettait de réussir, que les professeurs, quand ils parlent dans la classe, ils s'expriment pour plein de milieux sociaux différents. Et ça peut être le secteur rural, le secteur urbain, ça peut être des difficultés liées à la santé de la personne ou à un handicap. Ou... Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est que l'école, elle puisse répondre à chacun selon son mérite en ayant une certaine justice. Et donc, très tôt, j'ai trouvé qu'il y avait un rôle fondamental à donner à l'environnement. Donc, quand je suis devenue professeure, j'ai essayé d'agir autant que je pouvais sur l'environnement des élèves en connaissant mieux leur famille, ce que me permet mon métier de coordinatrice d'Ulysse, hein, encore plus que quand on est professeur, et puis aussi de travailler sur le lien, parce que c'est à travers le relationnel qu'on peut justement avoir accès à un autre vocabulaire, à la compréhension d'autres systèmes que celui duquel on vient, et c'est à travers l'affectif et le relationnel qu'on peut travailler son estime de soi et sa confiance en soi. Donc du coup, c'est pour ça qu'après, j'étais professeure de français ordinaire. J'avais mes 150 élèves par jour avec 4 classes et c'était très difficile de faire de l'individuel. Hein. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'ouvrir une Ulysse dans mon collège.
Super. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est une Ulysse ?
Alors oui, tout à fait. Alors souvent les gens ils parlent de classe Ulysse et alors ça franchement c'est vraiment pas une classe. Il faut bien être attentif au fait que c'est un dispositif. Alors pourquoi c'est important ? Parce que justement les élèves en situation de handicap quand ils sont en Ulysse ils sont pas séparés de leur classe. Au contraire ils appartiennent à leur classe de référence. Donc ça veut dire qu'ils sont en 6e, en 5e, en 4e, en 3e, mais certainement pas en Ulysse. L'Ulysse ils viennent là simplement pour suivre des temps de regroupement et pendant ces temps de regroupement, c'est moi hein, en tant qu'ordinatrice qui les enseigne, qui les accompagne, qui organise leur travail personnel. Mais vraiment, ce qui est fondamental dans l'Ulysse, c'est le temps qui passe en inclusion, donc c'est-à-dire lorsqu'ils sont avec leur classe de référence où là, ils étudient avec des gens de leur âge. Donc, ils ne sont pas exclus puisqu'ils font vraiment partie de cette classe avec d'autres adolescents du même âge qu'eux. Et pourquoi ils sont en Ulysse ? Pourquoi ils ont ces temps de regroupement-là ? C'est parce que ces élèves en situation de handicap, qui sont reconnus par la MDPH, le fait de simplement les aider pendant le cours ne suffirait pas. Ils ont quand même besoin de plus d'adaptation, de plus de personnalisation qu'un élève, par exemple, qui est aussi en situation de handicap et qui va avoir un AVS ou un ordinateur en classe et qui va avoir besoin simplement qu'on l'accompagne lors des cours. Là, il y a plein d'heures autour pour gérer d'une part les devoirs, mais également tout ce qui est apprentissage, mémorisation, organisation du travail. Et ça va aussi plus loin, c'est-à-dire qu'on va aussi travailler sur le relationnel. On va aider l'élève à mieux se sentir dans sa classe. Et aussi, en Ulysse, il va aussi pouvoir trouver un espace de retrait. Hein, c'est-à-dire qu'on va aussi travailler sur l'estime de lui-même, mais aussi sur le calme, sur avoir des ressources en lui pour mieux vivre son quotidien. Alors pour ça, donc je travaille moi sur toute la partie pédagogique, l'orientation, la planification des devoirs et surtout le relationnel avec la famille et les soignants. Hein, donc je fais la médiation entre les enseignants, l'élève, les soignants et ses parents. Et je travaille avec Sonia Bossan qui est l'AVS-co, l'AESH-co de la classe. Donc c'est une AVS, elle est vraiment formidable. On a créé l'Ulysse ensemble il y a 7 ans. Et elle s'occupe plus précisément de tout ce qui est apprentissage, mémorisation. Et elle accompagne, pas tout le temps, mais les élèves en inclusion. Donc du coup, elle travaille le relationnel de l'élève avec les autres élèves de l'établissement. Et puis elle est attentive aussi à ce que les transports, s'il y a des taxis, se passent bien, la cantine, les retards, voilà. Donc on se répartit les tâches comme ça, on se concerte beaucoup en ce sens. Et en fait, voilà, ce que c'est une Ulysse, c'est vraiment la possibilité de créer un emploi du temps personnalisé pour que l'élève il puisse vraiment étudier avec des gens de son âge. Donc en 6e, 5e, le but, c'est petit à petit permettre cette inclusion dans la classe de référence. Et en 4e, 3e, là, on pense plus à l'avenir, c'est-à-dire qu'à travers des stages professionnels adaptés, on va essayer de trouver un choix d'orientation que l'élève veut vraiment réaliser, que ce soit un vrai choix, qu'il ne se retrouve pas dans une voie où les adaptations sont peut-être plus simples comme la cuisine, mais que vraiment il puisse trouver ses compétences, parce que ses compétences sont pas toujours facilement visibles. Hein. Par exemple, là, j'avais une élève qui avait un niveau à peu près CE2, hein, c'est souvent le cas pour les élèves de l'ULIS, ils ont un élève CE2, mais ils se retrouvent quand même en 6e, en 5e, etc., et ils ne redoublent pas. Donc cette élève, elle avait eu beaucoup de soins hospitaliers quand elle était en primaire, donc elle avait des lacunes parce qu'elle n'avait pas suivi certains cours, mais elle avait aussi des blocages du fait de ses troubles, des blocages psychologiques. Et donc cette élève, petit à petit, en 6e, 5e, sa mère a été très présente aussi et on a beaucoup travaillé sur le fait qu'elle puisse exprimer des compétences. Donc ça a changé aussi le discours de sa maman sur elle, parce que sa maman qui avait vécu tout ça avec elle, elle était aussi désespérée. Hein. Et donc petit à petit, le regard de la mère a changé, celui de son enfant aussi. Et en 4e, 3e, elle s'est vraiment révélée lors d'une visite d'entreprise. Donc grâce à l'association Arpège, qui fait un travail vraiment remarquable, on a pu aller visiter l'usine MBDA, c'est celle qui construit des missiles. Et elle a vu un homme dans un établi, dans un atelier, qui était en train d'intervenir comme ça sur des cartes électroniques avec tout un tas d'appareils. En fait, elle a compris qu'elle pouvait se trouver un métier où elle serait un petit peu isolée, où elle aurait des choses à faire. Donc, elle serait quand même dans un groupe, dans une entreprise, mais elle pourrait ne pas trop interagir avec les gens. Alors après, on a confirmé cette intuition qu'elle a eue, on l'a confirmée en lui faisant faire un stage en réparation électrique dans un magasin. Et elle pensait plus se tourner vers la vente au début des téléphones, mais finalement, le stage de vente ne lui a pas plu, parce qu'elle s'est rendue compte que ce qui l'intéressait dans la vente en téléphonie, c'était surtout justement les appareils. Et à partir de là, elle a fait un autre stage en publicité, tout ça, et petit à petit, ça, elle a mûri, et là, elle a eu son CAP électricité l'année dernière.
Génial. Et alors, est-ce qu'il y en a suffisamment des ULIS en France ?
Alors, moi, je dirais non. Mais par contre, il y a une grande croissance du nombre. Par exemple, à Paris, depuis, je dirais 2013-2014, il y a presque une ULIS dans chaque école ou chaque collège. Donc, on a 80 ULIS en primaire, 90 en primaire. On a 90 ULIS en école primaire et 80 ULIS en collège. Donc, au niveau national, je crois que dans le premier degré, donc en primaire, il y a à peu près 5000 ULIS et dans les établissements du secondaire, il doit y en avoir un petit peu moins, quelque chose comme 4500, quelque chose comme ça. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même une véritable extension des ULIS sur le territoire, peut-être un petit peu moins depuis 2-3 ans. Mais par contre, le problème majeur, c'est le passage après la troisième, c'est-à-dire qu'en ULIS lycée, là, il n'y a pas le même nombre de dispositifs. Donc, chaque ULIS, il y a au moins une dizaine d'élèves par ULIS, hein, donc 80 ULIS sur Paris avec plus d'une dizaine d'élèves par établissement, vous voyez un petit peu ce que ça représente. Et en fait, il y a une dizaine d'ULIS lycée, en sachant que les ULIS lycées sont presque toutes en CAP, hein, c'était en lycée professionnel, donc déjà, ça réduit un petit peu l'orientation possible, parce que c'est pas parce qu'on a été en ULIS que forcément on a envie de faire un lycée professionnel. Peut-être que certains pourraient continuer en lycée général ou en lycée technologique. Et malheureusement, du coup, ça, ils ne peuvent pas le faire. Moi, j'ai des élèves qui ont eu le brevet avec des mentions assez bien, des mentions bien. Ils avaient quand même une orientation contrainte après. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et ça vient du fait que aussi les ULIS lycées professionnels ne fonctionnent pas de la même façon. Le coordonnateur, il se retrouve sur 3 ou 4 établissements. Donc, il n'a pas comme moi, dans tous les cas, en tout cas, ça peut peut-être arriver, je ne sais pas, mais je connais pas tout. Mais disons qu'il n'a pas sa salle, il n'est pas là tout le temps avec ses élèves. Et ces élèves-là, ils ont vraiment besoin d'avoir un référent, d'avoir une présence, d'avoir quelqu'un pour les suivre. Et là, moi, j'ai eu 2 expériences qui ont été vraiment très douloureuses. Enfin, pour moi, c'est rien, mais pour les élèves, c'est quand même dramatique, puisque j'ai une élève qui adorait la couture, qui avait fait un stage de broderie, de maroquinerie. Elle avait aussi fait des chapeaux en feutre, je ne sais plus comment s'appelle ce métier. Enfin, elle avait vraiment une dextérité assez exceptionnelle, mais quand elle est arrivée dans le lycée professionnel de couture, en fait, ils l'ont gardée 2 jours, et puis après, elle est partie dans un autre dispositif, et après ils l'ont orientée en cuisine. Donc ça, moi, j'ai trouvé que c'était pas respectueux du fait qu'elle aurait peut-être eu besoin de plus de temps pour réaliser son rêve. Et puis en plus, elle n'aurait pas forcément pris le travail de quelqu'un d'autre, puisqu'on sait bien qu'il y a des emplois protégés. Donc et un autre élève aussi qui avait eu mention assez bien au brevet et qui de la même façon est arrivé dans un lycée qui n'était pas du tout inclusif, et il s'est senti tellement mal qu'en fait il perdait toutes ses capacités. Donc après, on avait beau jeu de dire qu'il savait pas faire, puisque effectivement il était très mal et qu'il n'arrivait plus du tout à s'exprimer. Donc ça, c'est des expériences qui sont des exceptions, mais elles existent quand même. Et je pense que voilà, l'Ulysse, c'est vraiment, à mon avis, le meilleur système qui puisse exister pour vraiment inclure les gens, puisque ça permet de les mettre dans un groupe, puisqu'ils ont une dizaine d'Ulysse dans l'établissement. Donc quand ils vont en inclusion, c'est pas comme le gamin qui est handicapé dans la classe, ils font partie d'un groupe qui a un autre nom. C'est les Ulysse, ces groupes, ça les rend forts. Mais effectivement, il peut y avoir des limites à l'inclusion.
Bien sûr. Et est-ce que vous pourriez nous rappeler les handicaps et troubles concernés par les Ulysse ?
Alors, en France, il y a plusieurs types d'Ulysse. Donc, l'éducation nationale utilise une terminologie qui n'est pas la même que celle des médecins. Donc, il y a TSLA, c'est pour, par exemple, ce qu'on appellerait plus couramment les dyslexies. Donc, ça veut dire trouble spécifique du langage et des apprentissages. Moi, mon Ulysse, c'est une Ulysse TFC, donc ça veut dire trouble des fonctions cognitives. Et en fait, les fonctions cognitives, disons que c'est le fonctionnement du cerveau, c'est des problèmes dans l'interprétation des informations. Et concrètement, ça veut dire que c'est des élèves qui vont avoir des problèmes de compréhension, notamment parce qu'ils ont un petit vocabulaire, du fait aussi de quand ils passent le test WIST avec les psychologues de l'éducation nationale, hein, c'est l'orientation en Ulysse, elle se fait à partir de ce test, donc l'intelligence verbale va être un petit peu limitée à certains moments, même si les profils sont assez hétérogènes, mais en tout cas voilà, ils ont des problèmes de compréhension et du coup ça va se répercuter sur plein de choses, sur la mémorisation, sur le fait d'anticiper quelque chose, sur le fait de se décider, mais ça peut vraiment être très bloquant. Par exemple, si on propose à mes élèves une boîte de chocolat où il y a que des chocolats différents, même ça va être une décision très difficile pour eux. Donc quand ils sont face à un QCM où il y a 5 réponses possibles, ça fait déjà 3 possibilités de trop, quoi. Il faudrait juste en mettre 2. Ils ont vraiment besoin d'adaptations assez lourdes pour pouvoir se concentrer, parce qu'ils ont aussi des troubles de l'attention associés souvent, et puis aussi une difficulté dans les gestes, parce que comme le cerveau traite l'information de façon un peu compliquée, à chaque fois qu'ils sont en situation de double tâche, ils perdent encore plus leurs moyens. Donc du coup, l'écriture, la lecture, ou lire pour comprendre, ou lire pour chercher une information, à chaque fois qu'il y a une double tâche, ça les bloque. C'est un petit peu ça, et c'est pour ça qu'ils ont besoin vraiment d'un parcours personnalisé, parce que ils ont au départ ils ont un problème qui peut être une malformation ou un traumatisme. Alors des fois ils ont un diagnostic d'autisme, de trisomie, voilà, il y a des diagnostics, mais il y a aussi des enfants pour lesquels il n'y a pas du tout de diagnostic. Donc en fait, il faut observer leur fonctionnement, et surtout, en fait, ce qui est important en Ulysse, c'est de chercher leur efficience, de pas essayer de trouver mais quel trouble il a, quelle maladie il a, qu'est-ce qu'il a. En fait, ce qui est surtout important, c'est de voir ce qu'ils savent faire et quelles sont leurs compétences, parce qu'à partir de là, ils ont une efficience infinie, ils sont souvent extrêmement volontaires et ils sont capables du meilleur, en fait.
Bien entendu. Et alors, on sait qu'aujourd'hui, la politique inclusive prévoit que tous les jeunes soient inclus dans les écoles ordinaires. Est-ce que l'Ulysse participe réellement à cet effort de politique inclusive? Est-ce que cela est suffisant de votre point de vue?
Alors oui, selon moi, l'Ulysse est vraiment un dispositif qui fonctionne très bien et qui est nécessaire. Alors pourquoi? Parce que l'élève qui est en Ulysse, effectivement, il va avoir une aide pour tout ce qui est scolaire. Mais je pense que c'est pas forcément ça le principal quand ils arrivent à l'adolescence. Ce qui est important surtout, c'est qu'ils puissent, comme les autres adolescents, faire partie d'un groupe de gens de leur âge pour se développer dans l'autonomie, dans le sens critique, prendre confiance en eux. Et ça, le groupe Ulysse le permet, puisque ils ont un petit groupe autour d'eux de jeunes qui non seulement va affronter l'acceptation du handicap, la découverte que effectivement ils sont obligés de toujours avoir leurs adaptations avec eux, ce qui est quand même lourd au quotidien. Ils peuvent pas rentrer chez eux et se dire voilà, ça y est, j'ai plus besoin de rien. Même à la maison, les adaptations qui sont là, à l'école, elles sont à la maison, elles sont là tout le temps, ils peuvent jamais s'en délester. Eh bien, ils vivent cette difficulté-là, ils vivent aussi la difficulté que tout le monde connaît à l'adolescence. Il y a beaucoup de changements corporels, les jeunes vous regardent plus de la même façon, les relations qu'on avait avant avec les parents, avec les adultes, se métamorphosent petit à petit. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'ils doivent vivre avec les autres. Et le fait de le vivre dans leur classe de référence, ils vivent avec les adolescents standards comme tout le monde, mais ils ont aussi ce groupe qui peut les porter en montrant qu'il y a d'autres jeunes qui vivent aussi ces blocages et qui arrivent à les surpasser. passer. Moi, je suis dans une cité scolaire et c'est vrai que les élèves du collège en Ulysse, quand ils voient souvent qu'il y a des lycéens qui viennent travailler de temps en temps, des lycéens en situation de handicap, hein, qui viennent aussi travailler un petit peu avec nous, ben, ça encourage mes élèves puisqu'ils voient des gens qui sont plus grands, plus vieux, qui sont comme eux. Et petit à petit, voilà, ça leur permet de prendre confiance en eux parce que quand il y a un enfant qui est handicapé dans une famille, c'est pas seulement lui qui est handicapé. En fait, ça va avoir des répercussions sur toute la famille. Et parfois, les parents, comme tous les parents du monde, ils découvrent en fait le fait d'être parent, ça vous tombe dessus un petit peu. On est bien obligé de faire face à des situations qu'on n'avait pas anticipées auparavant. On n'apprend pas avant d'être parent. Et donc, les parents qui ont vécu aussi le handicap de leur enfant, c'est extrêmement difficile parce que ils n'ont pas souvent entendu discours positifs sur leur enfant. Et donc, ils ont besoin d'être aussi épaulés pour savoir qu'ils prennent les bonnes décisions. Et du coup, parfois, les parents ont tendance à surprotéger l'enfant, à le maintenir un petit peu plus en enfance, parce que c'est une façon de le protéger. Hein. Et puis, parfois, c'est le contraire, c'est-à-dire que le fait de voir que leur enfant n'est pas compétent comme les autres, ils ont tendance peut-être à le délaisser, à le mettre de côté, en pensant peut-être qu'il est trop abîmé. Et voilà, l'ULIS, elle permet à l'enfant d'être dans un groupe qui va porter un regard sur lui, où il va aussi avoir des discours d'autres adultes sur lui, et parfois ça remotive aussi les parents lorsqu'ils ont une phase où ils sont un petit peu en souffrance. On sait qu'il y a beaucoup de divorces aussi dans les familles où il y a des enfants en situation de handicap, et puis ça va aussi permettre à des parents qui surprotègent leur enfant de respirer un petit peu, parce que ils peuvent aussi partager cette expérience-là avec l'école. Donc en fait, je pense que c'est une expérience super pour la politique inclusive, l'ULIS, mais c'est pas toujours la meilleure solution. C'est-à-dire qu'il y a des enfants pour qui l'inclusion en milieu ordinaire est une souffrance. Alors parfois, ça peut être ponctuel, hein, ça peut être juste un moment, et puis après, ils peuvent revenir. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup de passerelles. Mais par contre, ce que moi, de mon expérience, disons que les moments où j'ai pas forcément réussi à vraiment faire de l'inclusion, c'est quand certains enfants ont des pathologies psychotiques ou psychologiques qui les empêchent de supporter le grand groupe. Donc déjà, quand en ULIS, ils ont du mal à supporter qu'il y ait 10 personnes, c'est encore pire dans la classe de référence. Parce que c'est des enfants, par exemple, ils vont entendre des voix, ils vont avoir l'impression que du coup les camarades leur en veulent ou disent des choses sur eux. Et puis après, ça peut le fait qu'ils le pensent, ça peut même générer des situations de harcèlement parce qu'ils vont le dire aux autres. Et puis ça crée des choses assez compliquées à gérer. Ou alors, il y a aussi un autre cas qui marche pas, je pense. C'est des élèves qui sont en ITEP. Donc les ITEP, ce sont des instituts médico-sociaux qui sont spécialisés pour accueillir des enfants qui ont des troubles du comportement. Donc c'est des comportements soit par excès, mais aussi par défaut. Donc c'est des enfants qui sont soit complètement effacés, soit qui peuvent avoir des troubles du comportement qui sont très avec plein d'impulsivité. Donc en fait, ces enfants-là, ils n'ont pas forcément de déficience intellectuelle. Parfois, ils ont des troubles de l'attention, ouais, mais ils n'ont pas vraiment cette déficience. Et quand ils viennent en ULIS, qui se retrouvent dans un groupe d'enfants qui est moins pertinent qu'eux à l'oral ou dans les activités, eux, ils comprennent tout de suite, les autres non. Et en fait, c'est très dur à vivre parce qu'ils voient que les autres peuvent aller en inclusion dans un groupe de 30 et que ça se passe bien. Eux, ils savent qu'ils comprennent mieux que les autres, mais finalement, ils restent en dehors du groupe. Et ça, vraiment, je pense que pour ces élèves-là, l'inclusion dans l'ULIS n'est pas favorable. Là, il faut soit des unités externalisées dans les collèges, ou alors il faut penser des moments de retrait dans des hôpitaux de jour. Je pense que en fait, l'inclusion, c'est un vrai projet, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de l'enfant, parce que, par exemple, il y a des enfants qu'on envoie en inclusion et c'est tellement difficile pour eux qu'en fait, ils mettent toute leur énergie pour supporter le groupe et en fait, ils apprennent rien, ce qui fait qu'ils arrivent à 14-15 ans, ils n'ont pas de base scolaire. Souvent, on entend des gens qui disent « oui, l'inclusion, c'est bien, qu'est-ce que c'est que ces enfants qu'on scolarise pas ?» tout ça. Je pense que là, il faudrait quand même que les gens qui disent des choses comme ça, ils aillent voir un petit peu sur le terrain et qu'ils jugent un petit peu moins vite, parce qu'ils font beaucoup de tort à l'école en parlant de cette façon, et puis aussi aux enfants et aux parents qui sont dans les instituts médico-sociaux. Et parfois, il y a des gens qui sont dans les instituts médico-sociaux et qui ont des parcours de vie formidables. Et là, en fait, on les disqualifie d'emblée. Et c'est pas comme ça qu'on peut favoriser vraiment l'inclusion. Donc voilà, il y a des limites à l'Ulysse, c'est pas la panacée, mais je pense que voilà, tous les élèves qui peuvent s'appuyer sur le groupe pour être inclus, c'est vraiment le lieu idéal pour leur épanouissement. Parce qu'il n'y a pas que l'école, hein, il y a aussi l'épanouissement.
Bien sûr. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans votre approche, c'est que vous essayez vraiment de tout mettre en œuvre pour leur permettre de construire leur propre projet de vie. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus?
En fait, le projet de vie, il est construit à l'école, sur la partie orientation scolarité, et c'est aussi un volet qui est travaillé à la MDPH et avec les soignants, donc c'est un travail qui est fait en partenariat avec la famille, les soignants, la MDPH, l'école, les professeurs, et bien sûr l'élève, parce que c'est quand même de sa vie dont il s'agit, et ce qui est vraiment important, c'est que ces élèves puissent vraiment s'autodéterminer, avoir l'autonomie qu'il faut pour se réaliser. Alors, à l'intérieur de l'ULIS, on a les élèves qui arrivent en sixième, donc ils ont 11 ans, hein, et l'idée, c'est de leur faire travailler sur des projets, par exemple des projets artistiques, où ils vont parler de l'inclusion de façon détournée, donc à travers des ateliers d'écriture, à travers des projets artistiques, des films. Et du coup, les élèves qui n'ont pas forcément beaucoup de vocabulaire au début ou qui sont un petit peu... C'est des élèves aussi, ils ont été beaucoup manipulés au niveau physique dans les hôpitaux, tout ça. Donc des fois, ils restent un peu en retrait de leur vie parce qu'ils ont eu tellement l'habitude qu'on les attrape, qu'on leur fasse des tests, des manipulations, qu'ils ont aussi... il leur faut un certain temps pour se réapproprier leur vie. Et du coup, à travers tout ces projets, ils parlent d'eux. Donc, par exemple, il y avait un élève qui s'était comparé à Thésée, qui va tuer le Minotaure et qui disait, voilà, moi, je suis comme Thésée. Quand je vais en inclusion, tous les jours, je sais qu'il ne faut pas faire comme les mauvais élèves. Et donc, il racontait ce combat. Je trouvais que c'était très joli. Et puis, ça prouve qu'il avait vraiment acquis une grande culture, finalement. Il y avait un élève aussi qui avait des troubles du comportement, un TDAH, hein, donc, qui avait, sur les métaphores, écrit « Je tombe de haut, je tombe des nues. Je tombe comme un cheveu sur la soupe. » Donc, toutes ces métaphores, ça montre très bien son ressenti où, par ses pertes d'attention, il avait toujours l'impression d'arriver dans un cours ou de suivre le cours par intermittence. Et j'avais trouvé, voilà, il prenait conscience de son handicap et de façon positive, puisqu'il arrivait à en faire un poème et puis autre chose après, puisque lui, maintenant, il fait la cuisine dans un centre. Donc, il a bien évolué. Il y avait aussi un autre élève avec un profil plutôt autistique qui avait écrit « Pas d'AVS, pas de professeur, pas de panneau, pas de panique. J'entends une voix, c'est le mur qui murmure. » Donc voilà, c'est finalement, s'il n'avait pas d'humain pour l'aider, il pouvait aussi trouver des murs, des informations, des pictogrammes. Donc, je trouve qu'il avait... là, il commençait à exprimer comment il allait se servir de toutes les adaptations qu'on mettait en place. Donc ça, c'est en 6e, 5e, on fait beaucoup de projets comme ça. Et puis en 4e, 3e, on va plus travailler sur l'orientation avec des stages, même si là, avec le Covid, c'est un petit peu particulier. Mais l'idée, c'est de faire sortir un petit peu l'élève progressivement des déterminismes de son cercle familial pour qu'il puisse voir ce que font ses pairs et qu'il fasse un projet aussi en lien avec les autres. Parce que l'élève qui vient en inclusion, au départ, il va juste avoir des relations, je dirais, avec le cordeau, le prof, l'AVS, et puis il va être concentré sur le travail scolaire. Mais une inclusion qui marche, c'est une inclusion où l'élève, il va avoir des copains en ULIS, mais aussi des copains pour jouer au foot, à la récréation, tout ça en classe de référence. Et si ça marche, ça veut dire que petit à petit, il va avoir une vie comme les autres, un projet comme les autres, et qu'il va être prêt à partir au lycée. Mais pour ça, pour que ça marche vraiment, il faut vraiment ne pas banaliser le handicap, parce que le handicap, ça nécessite vraiment que toutes les adaptations soient toujours présentes. Donc l'élève, il doit être capable de dire ce dont il a besoin. Donc c'est ça aussi le projet qu'on travaille en collège, c'est que petit à petit, ils sachent dire ce qu'ils veulent. Et alors, quand ça se passe très bien, eh bien à la fin, ils ont le CFG ou le brevet. Donc moi, j'ai tous mes élèves qui ont eu le CFG hein, depuis 2014. À chaque fois que je présente des élèves, il y a que, je pense, j'ai 3 ou 4 élèves qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout de la 3e. Donc ils sont partis avant, ceux-là n'ont pas passé l'examen. Hein, donc c'est des élèves qui partent en IME, IMPRO ou en hôpital de jour pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et sinon, les autres, ils ont tous le CFG, c'est-à-dire que c'est un examen qui se passe à l'oral et qui valide un niveau 6e quand on est en 3e. Et puis alors, après, il y a le brevet. Hein. Là, c'est un niveau cycle 4. Et là, il y a des aménagements. Par exemple, ça va assez loin hein, dans les aménagements. Un élève, il peut demander même une dispense sur les sciences. Parce que, par exemple, il y a beaucoup d'élèves, les tableaux à double entrée, les schémas, ça, c'est des formes de lecture qu'ils peuvent pas maîtriser hein, du fait de leurs troubles, mais ça les empêche pas d'avoir un brevet. Et comme je dis toujours, quoi, après, c'est quand même des élèves, quand ils vont aller travailler avec leurs difficultés aussi, donc ils vont pas prendre le poste de quelqu'un d'autre, donc c'est pas la peine de les bloquer si tôt, quoi, dès 15 ans, les empêcher d'accéder aux examens. Parce qu'en fait, un projet de vie sans examen, c'est déjà quelque chose qui est pas normal. Et l'examen, c'est important. C'est important pour les élèves ordinaires. Hein. Un élève, moi, j'ai longtemps enseigné en première, en terminale. Un élève qui adore vos cours, si jamais il a une mauvaise note au bac de français ou s'il a pas son bac L en terminale, il a pu adorer vos cours et découvrir plein de choses. Ce qu'il va retenir, c'est qu'il a pas eu son diplôme, parce que le diplôme, ça vous adoube, ça vous permet de rentrer dans la vie adulte. Et les élèves en situation de handicap, c'est pas des enfants, ce sera pas des enfants éternels. Ils ont droit d'être adultes et il faut vraiment qu'on fasse tout qu'on mette tout en œuvre pour que ça arrive.
Bien entendu. Et Sylvie, peut-être que tu veux nous partager quelque chose à ce sujet. Je pense que tu es tout à fait alignée avec les propos de Christelle, mais peut-être que tu as d'autres éléments à ajouter sur ce besoin d'adaptation pour ces élèves.
Oui, tout à fait aligné avec ce que dit Christelle. Nous, on le fait aussi dans nos écoles où on met en inclusion complète des enfants porteurs de handicap. Et je trouve que aussi ça fait progresser tout le monde, ça fait progresser les jeunes porteurs de handicap, mais ça fait aussi énormément progresser les autres sur le regard sur le handicap, sur la tolérance, sur l'empathie, etc. Donc je trouve que c'est des projets formidables. Et je trouve aussi que ce qui est très important chez ces enfants-là, c'est de développer leur confiance en eux. Parce que souvent, ils ont totalement perdu confiance en eux, ce qui les freine aussi beaucoup dans leurs apprentissages, dans leur vie, dans leur image d'eux-mêmes. Et je trouve que ça, c'est quelque chose auquel il faut vraiment penser, c'est leur confiance en eux, parce qu'ils ont forcément des compétences quelque part. C'est pas parce qu'ils sont, ils ont pas des bonnes notes à l'école et qu'ils ont des difficultés d'apprentissage qu'ils peuvent pas avoir une vie réussie. Et pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment essentiel à développer chez ces jeunes. Parce que on voit dans des métiers, ils peuvent tout à fait avoir un métier formidable et aussi développer leur autonomie. Parce que comme dit Christelle, ils resteront pas enfants toute leur vie. Et le but, c'est vraiment de les aider à avoir une belle vie eux aussi. Donc, je trouve que le projet de Christelle, quoi, le projet des Ulysse, c'est vraiment formidable et qu'il devrait y en avoir plus parce que nous, on reçoit quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels de jeunes en situation de handicap et qui trouvent pas vraiment leur place. Et c'est vrai qu'aussi les familles sont assez en détresse parce que c'est vrai que c'est aussi une grosse culpabilité parfois, mais aussi une grosse angoisse de se dire qu'est-ce qu'ils vont devenir quand ils seront adultes. Et je pense qu'ils ont vraiment leur place dans la société. Nous, on en a vu vraiment en développant leur confiance en eux, en faisant des programmes adaptés, qui réussissent à avoir leur brevet, qui réussissent après à faire des CAP et avoir une belle vie. Et c'est ça le but, de toute façon.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est important qu'il y ait une grande diversité de parcours possibles pour les familles, qu'on propose pas seulement un parcours fléché, tout le monde pareil, parce qu'en fait dans le cas du handicap il est impossible de ne pas faire du cas par cas, du cousu humain, de l'individuel. Il y a vraiment on doit vraiment se poser la question en France hein, de ce qu'on veut dire lorsqu'on parle d'aide à l'apprentissage pour tous les élèves de la difficulté scolaire, pas seulement ceux qui sont en situation de handicap, parce que c'est bien de continuer à apprendre, mais effectivement, il faut se poser la question de quel projet on leur donne. Moi, je sais que mes élèves, ils n'ont pas du tout envie de vivre chez leurs parents tout le temps en vivant d'une allocation. Ils veulent être utiles aux autres. Ils apprécient quand les copains viennent les chercher pour jouer au foot avec eux, et plus tard, ils apprécieront de la même façon de pouvoir contribuer à la société. Surtout que maintenant, ils ont une grande espérance de vie, donc ça veut dire qu'on peut espérer qu'un jour, ils touchent leur retraite après avoir travaillé au bien collectif. Et je pense que c'est de cela dont ils ont envie, de même qu'ils ont envie d'avoir une vie de famille, voilà, comme tout le monde, quoi.
Et ce que j'aimais beaucoup que vous disiez en off tout à l'heure, c'est qu'il faut arrêter de pousser les enfants à être absolument performants. Et c'est ce qui a pu faire souffrir aussi ces enfants-là. C'est cette quête permanente de la performance. Donc peut-être qu'on peut terminer cet épisode là-dessus. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter à ce sujet.
Mais effectivement, l'Ulysse est un des parcours qui vise cela. C'est non seulement montrer aux élèves qui sont performants, mais aussi montrer à leurs camarades de classe, de la classe de référence, que leurs copains sont performants et que même ils pourraient apporter plus d'empathie et une société où les contenus sont plus universels et partagés par tous. Donc ça permet de créer une cohésion, alors que parfois d'autres stratégies pour acquérir une certaine égalité ne concernent que certains individus. Là, vraiment, ce qui est génial avec le handicap, finalement, c'est que ces élèves-là, ils nous permettent en fait d'aller vers ce qu'il y a de plus humain entre nous et de ce qui nous ressemble tous pour partager les mêmes valeurs et que tout soit accessible à tous.
Bien sûr. Ben merci beaucoup Christelle pour ces propos passionnants et pour ce projet magnifique que vous portez. On merci. Était ravis de le partager à tous nos auditeurs.
J'étais ravie également.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.